Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Kippour. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Allez, on reprend l'étude de notre paracha après ce moment très intense de Kippour. Et donc, on arrive à l'avant-dernier chapitre de la Torah. Après, on va recommencer. Ça ne s'arrête jamais, c'est comme les rouleaux de la Torah, on continue toujours l'étude dans le judaïsme. Et là, cette paracha, ce chapitre qu'on lit dans nos communautés s'appelle Haazinu. Et en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au Bnei Israël, il sait qu'il va partir, il sait qu'il ne va pas aller avec eux en Israël. Et il leur fait toute une série de recommandations. Et il leur dit notamment de passer par leurs ancêtres, leurs pères, donc les nôtres. Par exemple, pour demander, et vous allez nous expliquer ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il leur demande de passer par nos ancêtres?
Exact, exact. On a en effet cette paracha qui est extrêmement, extrêmement belle et en même temps extrêmement complexe. Ne l'oublions pas, parce que paracha Haazinu, c'est un chant avec plusieurs lectures en parallèle, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et dans cette paracha, eh bien, à un moment, le texte va dire pose la question à ton père, et il te dira, tes anciens, ils te l'exprimeront. Et on parle ici donc de quelque chose qui n'est plus très, très, très présent dans le monde dans lequel on se trouve, c'est-à-dire de savoir se tourner vers les générations précédentes, tout simplement. Alors, Avicha, c'est ton père, c'est la génération précédente. Zekenecha, tes anciens, c'est à la fois les Chachamim, mais ça peut être aussi des Chachamim qui sont relativement jeunes, des sages qui sont relativement jeunes, mais qui ont un savoir, qui ont une connaissance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, au fond, si on veut comprendre qu'est-ce qui se joue ici, eh bien, il ne faut peut-être pas oublier que le point de référence. Donc là, l'Israël, c'est quoi? C'est le Sinaï. C'est au Sinaï que la Torah a été révélée. Et donc, chaque génération qui avance est plus loin du Sinaï. Et il y a donc déjà ici une première notion. C'est que les générations qui nous précèdent ont été plus proches de la révélation que nous. Et donc, elles en ont peut-être une perception plus fine. Alors évidemment, on sait qu'il y a malheureusement eu des pertes. Il y a eu malheureusement des moments dans lesquels les anciens, eh bien, surtout les pères, ont mis un petit peu de côté les choses, c'est sûr. Mais néanmoins, je crois que c'est ça qu'il faut avoir clairement en tête, mais néanmoins, le concept reste là. Alors, She'al avi chaviagetra zokener chaviam roulach. La notion de She'al pose la question. Pose la question, c'est quoi? C'est sois capable d'imaginer que tu as peut-être quelque chose à découvrir que tu ne connais pas. Tu as peut-être une piste de réflexion que tu n'aurais pas imaginée, parce que, de manière générale, si quelqu'un a une question et qu'il n'a pas la réponse, évidemment qu'il va la poser. Donc, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, écoute, t'as un problème, tu ne sais pas quoi faire, pose la question, et pose la question à ceux qui ont plus d'expérience. Pour lui, c'est évident. Donc, en vérité, quand la Torah dit cette chose-là, elle est en train de nous parler d'une personne qui n'aurait peut-être pas l'idée de poser la question. Pourquoi? Parce qu'il a sans doute lui la réponse. Parce que s'il avait une absence de réponse, eh bien, c'est évident qu'il va poser la question. Il va falloir en effet savoir, lorsque l'on pense ne pas avoir besoin de poser une question, de la poser quand même, c'est-à-dire de réaliser que nous avons parfois une vision un petit peu limitée des choses. Et les Zokenim, ce qu'on appelle les anciens, c'est aussi, disent nos maîtres, c'est ceux qui ont littéralement acquis une sagesse et qui ont quoi au fond de plus? Parce que souvent, c'est ce que les gens vont poser comme question, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? N'oublions pas ce que la Gemara nous dit, Chacham Adif Minavi. Le Chacham, celui qui a le savoir, la connaissance, qui a la Chokhma véritablement, Eh bien, Hadith, mon avis, il a une dimension qui est supplémentaire, supérieure, j'ai presque envie de dire. Il est mieux que le Navi, que le prophète. Pourquoi? Parce qu'un prophète, au fond, et c'est vrai qu'a priori, dans notre imaginaire, le prophète, c'est le contraire, c'est top, voilà, c'est la parole divine en direct. Mais quand vous regardez ce que Maïmonide dit, ce que le Rambam nous dit, le prophète, au fond, c'est qui? C'est une personne, évidemment, qui a des qualités humaines et des qualités morales, et des qualités éthiques et des qualités religieuses qui sont évidemment extrêmement élevées. Mais il va être beaucoup plus ce qu'on appelle un keli, c'est-à-dire un outil à travers lequel la parole divine va s'exprimer. C'est-à-dire qu'il est un canal. Seulement, il a un niveau tel qu'il peut servir de canal direct entre le créateur de l'univers et son peuple pour leur donner des indications, pour leur faire des remontrances, pour les encourager, que sais-je. C'est sa fonction. D'ailleurs, quand vous voyez la manière dont le Rambam Maïmonide nous décrit le prophète, eh bien, au moment où il reçoit sa prophétie, il est presque dans un état de catalepsie, c'est-à-dire qu'il est comme un petit peu déconnecté de la réalité du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on nous dit que Moïse, c'est le seul qui reçoit la prophétie panim el panim, face à face, c'est-à-dire dans un plein état de conscience. Ça, c'est le Navi. Par contre, le Raham, n'est pas celui qui reçoit la parole divine parce que tout simplement il va être le vecteur de celle-ci, mais il est celui qui, au fond, est capable d'appréhender ce que le divin dirait, si je peux m'exprimer ainsi, dans telle et telle situation. Alors c'est vrai que ça nous semble un petit peu fou, mais pour donner une image, le Raham, au fond, c'est quelqu'un qui est à côté de nous, mais qui est en vérité à 10 mètres de hauteur. Nous, on voit à 30 mètres en avant, à 50 mètres, lui il voit à 500 mètres, il voit beaucoup, beaucoup plus loin. On le voit d'ailleurs dans les événements qui ont touché le peuple juif, combien les Chachamim voyaient beaucoup plus loin, et dans des époques dans lesquelles on pensait que tout était calme, ils voyaient déjà se profiler des nuages sombres, et à l'envers. On sait que, par exemple, Rabbi Lubavitch, en 1967, alors que les gens étaient d'une inquiétude folle, vous savez qu'en 67, l'aumônerie de l'armée israélienne était en train de consacrer des lieux publics pour pouvoir servir de cimetière, tellement ils avaient peur au niveau du nombre de malheureusement de tués. Et le rabbi disait non, non, pas du tout, tout va bien, tout ira bien, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a ici non pas le prophète, mais on a le Chacham. Et c'est ça que la Torah nous dit, demande à ton père. Mais le père, c'est aussi notre père physique. Alors, il y a ici quelque chose de très intéressant, parce que lorsque vous demandez son avis à votre père, à votre parent, eh bien, qu'est-ce que vous faites à travers cela? Vous lui révélez qu'il représente et qu'il a de la place et qu'il a de la valeur pour vous. Au fond, c'est ça véritablement, si on réfléchit, la mitzvah de Kibboud Avem, la mitzvah du respect des parents, c'est-à-dire de créer une relation dans laquelle on est capable de montrer à nos parents ô combien leur parole est importante pour nous, ô combien on a envie de l'entendre, ô combien on a envie d'en tenir compte. Et ça, en effet, eh bien, c'est exactement ce que l'on va voir au niveau de cette paracha. Alors, Azinu, c'est un chant, et ce chant, il est très intéressant parce que demande à tes anciens, demande à ton père, c'est aussi par rapport à la lecture que l'on va faire de ce texte. Parce que vous savez, ce texte, il nous raconte un petit peu, j'aime pas dire le mot de, j'aime pas dire ça comme ça, la fin de l'histoire, c'est pas la fin de l'histoire, mais les époques qui précéderont la Geoula. Et on a beaucoup, beaucoup de décryptages possibles, parfois des lectures qui peuvent être complètement opposées les unes aux autres. Et justement, c'est peut-être à Vicha Vezekenecha, à ceux que l'on appelle les anciens, à ceux que l'on appelle les générations précédentes, de venir et de nous aider à mieux comprendre le sens des événements auxquels on est confronté. Ne serait-ce d'abord que par l'expérience qu'ils ont, mais aussi de par le fait que, eh bien, il y a cette Rochma. Alors, à nous de savoir nous rappeler de cet enseignement, à nous de savoir justement, vous savez, on est dans un monde dans lequel aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce qu'on appellerait l'univers du jeunisme. C'est-à-dire, quand vous êtes jeune, alors votre parole, elle a de la valeur. On a même peur aujourd'hui de faire des remarques à des personnes qui sont jeunes, ce qui, à mon avis, les dessert énormément parce qu'au fond, ils attendent peut-être une parole bienveillante, mais claire, des générations qui les ont précédées, mais c'est un petit peu l'air du temps parce que derrière cela, c'est quoi au fond? C'est l'acceptation qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est le fait qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Or, vous savez, c'est ce qu'on vient de vivre maintenant. On vient de vivre ça avec Kippour. Kippour, on inscrit très fortement chez nous le fait que l'univers a un créateur, que nous y sommes soumis. Eh bien, c'est cette réalité-là qu'on va devoir mettre en place au quotidien. D'ailleurs, vous savez, quand vous êtes dans le monde de la yeshiva, dans le monde de l'étude, les gens sont parfois très, très surpris de constater que c'est à l'âge où certains prendraient leur retraite, qu'émergent les plus grands maîtres, ceux vers lesquels des dizaines, des centaines, des milliers d'élèves vont se tourner, leur demandant non pas de penser à leur place, mais en cherchant à s'inspirer de leurs paroles, de comprendre mieux ce qu'ils disent. Dans le monde de la yeshiva, eh bien, vous allez avoir des cours avec 200, 300 jeunes, et le maître, eh bien, 80 ans, 90 ans, et quelque part on s'y attache, parce qu'en même temps, on se rend compte qu'il fait partie de ces générations que nous n'avons pas connues, de ces générations qui nous connectent à toute notre histoire, et il y a ici quelque chose de très fort et qui, quelque part, est l'élément qui nous permet de mieux comprendre la pérennité du peuple juif.
Ravi Lilemel, j'ai beaucoup apprécié l'idée d'intercéder, parce que des fois on se trompe un peu de destinataire, si je puis me permettre. Intercéder auprès de Dieu, avec ce très beau développement que vous venez de nous offrir. Je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Idée qui est celle de nos sages, que dès le soir du...
Mon cher Bernard, Shabbat Shalom, et puis je ne sais pas si on est dans l'occasion de se reparler avant Soukhot, en tout cas Shabbat Shalom, et aussi Chag Sameach.
Pour reconstruire la Soukha. Et quelque part, ça vous renvoie à une réflexion sur la Teshuva. On vient à peine de faire la Teshuva et on recommence la Teshuva. On vous écoute.
À vous et à toutes les types, à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors, il y a une question qui se pose et qui est reliée à la halakha, à la loi concernant ce code, c'est qu'on a l'obligation, quand on sort de Kippour, immédiatement de s'affairer à la préparation de la soukha. On le dit de façon à ce qu'on avance, on fasse « mechayil al chayil » pour aller d'une mitzvah à l'autre en quelque sorte. Mais il y a une question plus large qui se pose. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut embrigader directement, mais de manière générale même, pourquoi après les jours de Kippour, les jours de Rosh Hashanah et de Kippour, on a fait tchouva, on a été pardonné, on est réellement propre devant Hachem, devant les hommes, devant nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de poursuivre l'effort de la tchouva? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Alors pour le comprendre, il faut comprendre cette notion de tchouva mais ahava, cette notion de tchouva par amour. Vous savez que pendant les premiers jours, donc depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, la tchouva que nous faisons est une tchouva habitée par la crainte. Il y a ici un jugement, et donc nous allons faire tchouva, nous allons regretter les fautes, nous allons prendre sur nous un certain nombre d'engagements. C'est ce qu'on appelle la tchouva mehira, la tchouva par la crainte. Et un deuxième point, qui est un point qui est tout à fait fondamental, c'est qu'il faut construire un lien avec Hachem, et ce lien, il se fait par ce qu'on appelle la tchouva me'ahava, la tchouva par amour. Alors ici, il y a un point qu'il faut comprendre, peut-être une ambiguïté qu'il faut lever. Qu'est-ce que c'est la tchouva me'ahava? La tchouva par amour. C'est une tchouva qui procède de l'amour qu'on peut ressentir vis-à-vis de la Torah, et donc vis-à-vis de l'œuvre d'Hachem, et donc vis-à-vis d'Hachem lui-même. Il y a ici un point qui est un point tout à fait déterminant dans la suite du parcours du mois de Tishri. Qu'est-ce qui va nous être demandé? Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui attendent la dernière minute pour acheter le etrog, le lave, etc. En tout cas, quand ils ont le temps, et puis qui, pendant la fête, vont se promener à droite et à gauche. Bref, ils n'embrayent pas réellement sur les mitzvot. Dès la sortie de Kippour, on va construire la soukha. Dès le lendemain, si ce n'est pas déjà fait, on achète, c'est à bas minimum, les quatre espèces donc de végétaux, si je puis dire. On va réunir en une seule poignée pendant la fête. Et on commence à préparer la soukha. En fait, la suite du parcours, c'est la tchouva qui procède d'une ahava profonde pour Hachem. Là, ici, évidemment, c'est un point qui est fondamental. Comment est-ce qu'on peut parler d'une chouva qui peut procéder de l'amour qu'on ressent pour un chien? Tout simplement, elle s'affiche à la fois dans les actes, mais en même temps dans l'étude. Dans les actes, parce que finalement, sorte qui pour, on va tout de suite se précipiter pour organiser donc la préparation de Soukhot. Et pendant 7 jours, on va vivre dans la soukha. Et ça, c'est un des points les plus fondamentaux. On mange, peut-être en France, on ne dort pas dans la soukha, mais ici en Israël, on mange et on dort dans la soukha. On vit réellement, on habite vraiment dans la soukha pendant 7 jours. Et en fait, on se met sous l'ombre du skar, du toit, dont la halakha nous dit qu'il faut quand même pouvoir voir le ciel. C'est une ouverture vers l'infini. Il faut être capable de voir la main d'Hachem qui dirige notre vie, la puissance de la main d'Hachem qui nous protège. On a bien besoin ici en Israël, un peu partout dans le monde aussi, comme on l'a vu après l'attentat de Manchester. On a besoin de sentir cette protection d'Hachem. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fois, on va se remettre entre les mains d'Hachem, mais en même temps, vous savez que dans cette fête, il y a beaucoup de halakhot, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses à étudier. Et des choses qui nous renvoient une infinité de domaines de la vie courante. Ce n'est pas seulement les lois de la soukha ou les lois d'Arba Minim. C'est aussi des lois sur la propriété, par exemple. Est-ce qu'on peut faire la bénédiction sur un étroit qui ne nous appartient pas? Au pire encore, tu aurais été volé. On sait que non, mais pourquoi? Il faut le déterminer. On voit plein de choses qui sont liées à voir la relation avec Hachem, maintenant à la relation à l'autre. Donc c'est la notion fondamentale. C'est ce qui va se jouer là maintenant. C'est transformer l'essai, comme on dirait au rugby, c'est-à-dire prendre cette chouba que nous avons fait par crainte et la transformer en un acte d'adhésion. D'adhésion à la Torah, un acte d'adhésion au projet d'Hachem, qui est de répandre la conscience de la présence d'Hachem dans le monde, ça se fait avec la soukha, et donc de réfléchir à cela et d'intégrer dans sa vie pour le reste de l'année. Une chouva donc, qui procède de la hava, de l'amour. Hava, serveur numérique, echad, 1. Ce qu'on nous demande ici, c'est pas seulement de fuir ce qui est négatif, c'est de se coller à ce qui est bon, bien, mais aussi très structurant. Prenons 2 points sur la soukha et on terminera avec ça. Dans les arba minim, il y a 4 espèces de fruits qui représentent 4 espèces de juifs, mais qui représentent aussi des membres. Le cœur, les trocs, c'est le cœur, la colonne vertébrale pour le loulav, les yeux pour la das, les arabot, la bouche, 4 types de juifs. Donc on va réunir l'ensemble des facultés mentales, psychiques, émotionnelles de l'individu, l'ensemble des juifs également, et tout ça va se réunir vers Hachem, en levant les yeux. Premier enseignement, qui est un enseignement d'unité, mais qui tient compte de la diversité, qui ne fond pas la diversité dans un ensemble qui ne voudrait rien dire. Chacun est là avec ce qu'il est, tel qu'il est, invité à faire un pas et à regarder dans la bonne direction, de là où il est, et à avancer. Et puis il y a le deuxième point, qui est le point de la soukha. Vous savez que la soukha, elle tient sur sa kashrout est essentiellement due au nombre de parois qu'elle a, il doit y avoir au moins 3, et puis également au skar. Le skar, comme je l'ai précisé, il faut qu'on puisse voir le ciel, il faut qu'on puisse voir les grands astres. D'accord ? Sinon, c'est un désastre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que la soukha soit une ouverture sur quelque chose qui a l'air infini, c'est le ciel. En fait, on appelle la soukha Tsula de Bemuta, c'est l'endroit de la Emuna, l'endroit de la foi, l'endroit dans lequel on comprend bien que ce que l'on possède est finalement assez fragile. Et c'est intéressant parce que souvent ici, par exemple en Israël, les gens construisent leur soukha sur un balcon. Bah, toute l'année, ils voient leur balcon à partir du salon. Et pendant Soukhot, ils voient leur salon à partir du balcon dans lequel il y a la soukha. Et ça, c'est intéressant parce que toute l'année, on va garder sur notre salon le regard du balcon, c'est-à-dire le regard de la soukha, qui est un regard de précarité. On sait que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de passage. On a beaucoup de choses à y faire, beaucoup de mitzvot à réaliser, beaucoup d'actes d'amour vis-à-vis d'Hachem. Et c'est ça qui va faire donc toute la différence. Et c'est ce qu'on va essayer de cultiver, de développer en nous donc, durant la fête de ce jour. Voilà. Je vous dis à tous, Shabbat Shalom, et Chag Sameach. Et on souhaite à tous une bonne fête d'hiver.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Rav Gué, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gué, pourquoi est-ce que selon vous, l'acte de retourner sous la soukha juste après Yom Kippour est un acte de teshuva?
Alors d'abord, je voudrais donner un commentaire très intéressant sur la fin de la première bénédiction de la Shmoneh Esrei, de la Amida. Vous savez, ça se termine par Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, béni sois-tu Hashem, le protecteur d'Avraham. Mais juste avant, il y a 4 mots. Melech, le roi, Ozer, celui qui aide, Moshia, il sauve, ou Magen, il protège. Alors, certains expliquent que Melech, le roi, c'est Rosh Hashanah. Évidemment, Rosh Hashanah, Hachem se présente comme le roi du monde et on renouvelle cette malchoute, la royauté divine. Arrive après Ozer, il aide, c'est les Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de pénitence où Hachem nous aide à faire Teshuva. Il est présent, proche, et il est plus facile de faire Teshuva à cette période-là. Ensuite, Moshia, il nous sauve. Là, il s'agit de Yom Kippour, où c'est un véritable sauvetage parce qu'on est sauvé de nos fautes. Et après, Magen, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, Magen, de protection, c'est la Souka. La Souka nous protège. Alors, c'est vrai que ça paraît plutôt bizarre. La Souka, elle protège peut-être un peu du soleil, mais certainement pas de la pluie, et certainement pas du froid. En quoi la Souka est une protection? Et pourquoi est-ce que c'est la suite, justement, logique de Yom Kippour? Juste après Yom Kippour, on se rendra dans la Souka pour se protéger. Alors, en fait, il faut savoir la chose suivante. Lorsqu'on fait Teshuvah, on est fragilisé parce qu'on change nos habitudes, parce qu'on a pris sur nous des choses qui peuvent être des fois, qui peuvent paraître difficiles. Donc il faut nous mettre dans une situation de protection. On nous dit change d'endroit, change de lieu, et après tu seras protégé, c'est-à-dire tu seras, ce sera plus facile pour toi de faire tes chouvas et de projeter, et surtout de faire en sorte que ces engagements que tu as pris à Kippour se réalisent parce que tu n'es pas dans les conditions habituelles. Parce que le gros problème, c'est retrouver le train-train quotidien et tout simplement oublier ce que nous avons pris pour nous, sur nous à Yom Kippour. Donc la Souka a cette vertu, d'autant plus que je vous rappelle qu'au niveau tout simplement de la date choisie, le 15 Tishri, tous les commentateurs s'étonnent sur cette date, parce que franchement, il n'y a a priori rien qui s'est passé le 15 Tishri. Et le Gaon de Vilna nous dit non, il y a quelque chose qui s'est passé historiquement parlant, les nuées qui étaient parties, suite à la faute du Vaudor, sont revenus le 15 Tishri parce que les Juifs avaient commencé la construction du tabernacle, du Mishkan. Pendant 4 jours, ils avaient ramassé les fonds et surtout les produits nécessaires pour la construction. Le 15, on commence la construction et à ce moment-là, les nuées reviennent. Les nuées, je vous rappelle, qui ont accompagné les Juifs depuis la sortie d'Égypte, mais donc qui ont disparu après la faute du Vaudor. Et donc, c'est un moment important, le retour. Ça veut dire, le retour, ça veut dire que Dieu a agréé la Teshuvah, la repentance du peuple juif. C'est ce qui s'est passé le Yom Kippour, puisque nous avons reçu ce jour-là les tables de la loi, les deuxièmes tables. Je vous rappelle que les premières ont été brisées, donc on a reçu les deuxièmes tables. Et quelque part, Simchat Torah, et Shemini Atzeret, mais surtout Simchat Torah, est une réjouissance sur la réception des deuxièmes tables. Donc finalement, Sukkot est un moment de protection parce qu'on nous protège, on nous aide à réaliser nos nouveaux engagements. Puis également, le fait de faire beaucoup de mitzvot, on a la chance de pouvoir accomplir de nombreuses mitzvot. Nous sommes donc occupés, très occupés d'ailleurs, comme on le voit aujourd'hui, vendredi, veille de Shabbat, puis après il y a Shabbat, puis après il y a dimanche, lundi, donc très peu de jours pour se préparer à Sukkot, avec l'obligation d'acheter les 4 espèces, de préparer sa soukha, de préparer tout ce qui est nécessaire pour la fête. Donc on est véritablement tous occupés aux mitzvot. On est protégés parce que tout simplement, on n'a pas le temps de faire des averot, de transgresser quoi que ce soit, puisque tout simplement, nous sommes dans l'obligation de nous préparer à la fête. À tel point que nos sages nous disent que le premier jour comptabilisé après Yom Kippour sur le compte des averot, ce n'est que le premier jour de Sukkot où véritablement on se repose, on a une certaine sérénité et on pourrait éventuellement faire des bêtises, mais là encore on est protégé par la Souka, la doucha de la Souka. Il faut savoir que la Souka, elle a aussi une gématria que tout le monde doit connaître, une valeur numérique, c'est que le Samer, la première lettre c'est Samer, la dernière lettre c'est le He, donc Samer He, 65, et vous avez au milieu Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire 26, puisque vous avez Chaf et Vav qui restent, puisqu'il y a 4 lettres dans la Souka. Celle du milieu, c'est Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem tel qu'il est écrit, le tétragramme tel qu'il est écrit, donc sa valeur numérique 26, comme tout le monde le sait. Et la deuxième Gematria, c'est Adoshem, donc Aleph Dalet Nun Yud, 65, et là, il s'agit du nom d'Hachem tel qu'il est prononcé. Et donc, le nom d'Hachem est sur la Souka, et c'est écrit d'une façon allusive par le mot Souka. Et effectivement, la Souka est un lieu où, un peu magique, dans lequel Hachem nous dit « entre entièrement dans la Souka, tu manges, tu dors », et c'est comptabilisé comme une mitzvah. C'est une façon de nous dire que maintenant, du fait que nous avons été nettoyés de nos fautes, nous sommes accueillis, dans la, quelque part, l'intimité de Dieu. Hachem vous accueille dans sa maison, dans le lieu où le nom d'Hachem se trouve sur la souka. Et donc, dans cet endroit kadosh, saint, consacré, nous pouvons, maintenant que nous sommes propres, nous retrouver et l'accueillir. Je voulais juste donner un machal, une image, une métaphore qui va peut-être nous aider. Vous savez que il y avait un jour le tsar, on sait combien il était cruel, et il a envoyé en prison un de nos coreligionnaires, un juif qui était passé en prison pendant un an, dans des conditions difficiles, très difficiles. Il avait du mal à manger, donc il était nourri, mais vraiment d'une façon très parcimonieuse. Il était évidemment dans des conditions de confort absolument catastrophiques. Et surtout, la chose qu'il ne supportait absolument pas, c'est le manque d'hygiène. Ne pas pouvoir se laver comme il fallait, ne pas pouvoir changer d'habit souvent qu'il le souhaitait. Tout ça, c'était donc extrêmement pénible pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur ? Donc, il a supporté pendant un an, mais c'est surtout l'hygiène qui le dérangeait. Après un an, il a une grâce et il peut sortir, c'est extraordinaire. Et le jour où il sort, le geôlier lui donne des habits propres, un savon, et un peu d'argent pour rentrer chez lui, et il sort avec ses vieux habits, et il lui dit, à quelques pas de la prison, il y a une rivière dans laquelle vous allez pouvoir prendre votre bain, vous nettoyer. Donc c'est ce qu'il fait, il dépose des habits sales, à côté des habits propres, et il rentre sous l'eau avec son savon, et il se nettoie comme il ne s'est pas nettoyé depuis un an, et il est tellement heureux de retrouver cette propreté. Et lorsqu'il sort de ce fleuve, il a la surprise de voir que ses habits propres ont disparu. Effectivement, un monsieur qui passait par là a vu ses beaux habits, il les a pris pour lui, et donc il se retrouve à devoir remettre les habits sales qu'il avait dans la prison. Et donc c'est évidemment pénible pour lui, il a pris sa douche, mais il est obligé de mettre encore des mauvais habits. Donc un peu, ce machal, c'est une métaphore qui nous dit le peuple, le juif, à l'entrée de Yom Kippour a des habits sales, c'est-à-dire il a fait énormément de averot, de transgressions sur les lois de la halakha. Et Yom Kippour, c'est sous la douche, on prend une grande douche de kdusha, 26 heures, 25 heures de prière et de privation qui nous lavent. Et puis après Yom Kippour, le but, c'est de ne pas reprendre les habits sales, c'est de prendre les habits propres, mais seulement souvent le Yetzara, le mauvais penchant de Satan, nous vole les habits propres et nous oblige à remettre les habits sales, et finalement on reprend les mauvaises habitudes, on refait les bêtises qu'on faisait avant. Donc pour éviter ce genre de choses, Hachem nous a dit construisez la souka, achetez le loulav, faites tout ce qu'il faut pour la fête, et donc vous allez ainsi pouvoir vous engager dans une action de mitzvah. C'est ce qui va vous protéger de ces habits sales que vous risquez de remettre, de reprendre les mauvaises habitudes et de recommencer exactement comme avant. Voilà un petit peu ce que je souhaite à nous tous, c'est que nous puissions avoir le mérite de nous laver, nous sommes lavés à Kippour, ça c'est déjà fait, mais de rester avec les habits propres de Kippour et de pouvoir continuer et réaliser tous ces engagements et tous ces beaux sentiments de Kedusha que nous avons ressentis hier, de pouvoir continuer les amener avec nous dans la souka et faire en sorte que la souka soit cette magaine, cette protection face à la force qu'a la force des habitudes, des mauvaises habitudes, et que chacun puisse ce jour de Soukhot mesurer la simcha, la joie que nous aurons de danser avec Hachem pendant la fête de Soukhot. C'est un moment de joie, c'est une teshuva me'ava, un repentir dans la joie qui sera après apprécié à Hoshana Rabba, dernier jour de Soukhot, où juste avant Shemini Atzeret, nous faisons un peu le bilan, mais aussi, surtout, c'est un moment de joie où on nous montre que la Teshuvah est une Teshuvah Me'ava, une repentance dans l'amour, et c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est que nous soyons tous dans cette notion de Maguen, de protection, de joie, et de joie de la mitzvah, et de joie surtout d'être libéré de toutes nos fautes, et de surtout pas reprendre les mauvais habits, et de reprendre des habits bien propres, pour commencer une année pleine de bonheur, et de joie, et d'excellentes nouvelles que nous espérons, et que nous souhaitons à tout le peuple juif.
Amen. Rav Guy, je vous remercie, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, et Chag Sameach, bientôt pour Soukhot. Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom.